Atlantique, l'appli mobile totalement gratuite et enrichie de nouvelles fonctionnalités, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous, merci de votre confiance. Dans 30 minutes, la Libre Antenne, nous sommes vendredi, vous commentez l'actualité de votre choix, vous le savez, vous nous interpellez sur tous les sujets qui vous ont marqué cette semaine. Sans surprise, vous êtes encore nombreux ce matin à commenter le coup d'État au Burkina Faso, la première allocution hier soir du chef de la junte, le lieutenant-colonel Damiba, le sommet extraordinaire de la CDAO prévu dans moins de 2 heures maintenant pour décider ou non des premières sanctions contre le Burkina Faso. On nous appelle de Guinée pour commenter la composition du Conseil national de transition. On parlera également des manifestations à Abéché, au Tchad. On parlera football. Les quarts de finale de la CAN se jouent ce week-end. Certains d'entre vous sont en colère. Certains d'entre vous veulent distribuer des cartons rouges, notamment aux arbitres. Ben, on vous donnera la parole, évidemment. Et puis, d'autres dénoncent à tort ou à raison. Je n'ai pas d'avis là-dessus, mais vous, vous en avez un, en tout cas. Les traitements de faveur dont bénéficierait le Cameroun, le pays hôte. Voilà une libre antenne riche en débats qui s'annonce. Vous continuez à nous appeler 33 9 693 693 70. Mais d'abord, vous le savez, ce sont vos questions à la rédaction. On va commencer avec des questions sur le Liban. Bonjour Freddy.
Bonjour.
En République démocratique du Congo, vous souhaitez que l'on revienne sur la décision de Saad Hariri de se retirer définitivement de la vie politique.
Oui, effectivement.
On vous écoute.
Je voudrais comprendre pourquoi pareille décision d'un poids lourd de la politique libanaise. Et je voulais aussi savoir, est-ce qu'il pourrait y avoir des tensions, entre autres, intercommunautaires?
Alors, c'est une bonne question que vous posez. C'est vrai que c'est une page qui se tourne au Liban. Non seulement Saad Hariri jette l'éponge, mais il invite son parti à faire la même chose. Muriel Paradon, bonjour.
Bonjour.
Journaliste au service international de RFI, Saad Hariri, figure politique majeure du pays. Pourquoi se retire-t-il ?
Oui, alors il a annoncé il y a quelques jours les larmes aux yeux, le retrait de la vie politique. C'est effectivement un poids lourd. Il a été 3 fois Premier ministre. Il a expliqué les raisons de son départ. Je le cite, il n'existe aucune opportunité positive au Liban en raison de l'influence iranienne sur le pays, du désordre international, des divisions internes, du confessionnalisme et du délitement de l'État. Ça fait beaucoup. On va revenir sur l'influence iranienne parce qu'elle est bien présente au Liban avec le Hezbollah. Saad Hariri a dû composer avec le parti chiite pour gouverner et cela lui a été reproché par l'Arabie Saoudite, un grand ennemi de l'Iran, qui soutenait Saad Hariri. Il l'a lâché, il a même forcé à démissionner de son poste de Premier ministre. Souvenez-vous, c'était en 2017. On lui reprochait justement d'être trop conciliant avec le Hezbollah. Ça a été une expérience traumatisante pour Saad Hariri. Il a pu retourner ensuite au Liban, a repris ses fonctions, mais n'a pas vraiment regagné la confiance des Saoudiens. Il a aussi perdu beaucoup d'argent avec son groupe de construction, Saudi OG. Il est criblé de dettes. Ensuite, il a été affaibli par les législatives de 2018. Et puis, en 2019, il a démissionné avec, vous savez, ce grand mouvement de contestation populaire contre toute la classe politique dénoncée comme incompétente et corrompue. Alors, en 2020, il a été quand même rappelé pour former un nouveau gouvernement, mais il a jeté l'éponge, invoquant des divisions internes. Donc, on a l'impression que Saad Hariri est arrivé au bout de ce parcours, affaibli, abandonné par ses alliés. Alors, lors de cette allocution où il a annoncé son retrait, il a reconnu que ce qu'il avait réussi à faire quand même, c'était de préserver durant toutes ces années le Liban de la guerre civile au prix de nombreux compromis, notamment avec le Hezbollah. Mais il n'a pas réussi à assurer le bien-être économique de la population. Vous savez, le Liban est plongé dans une crise économique et financière sans précédent. Les Libanais vivent aujourd'hui simplement avec des aides et l'État est complètement délité.
Après ce départ, Muriel Paradon, faut-il s'attendre à des tensions?
Alors pour l'instant, il n'y en a pas eu. C'est vrai qu'il y a eu des manifestations dans la rue, sans violence, de manifestations de regret des partisans de Saad Hariri. Les sunnites se sentent un peu abandonnés par, effectivement, c'est un poids lourd. Son parti est le principal représentant de la classe politique sunnite. C'est toute une dynastie aussi qui s'éteint, entre guillemets. Rafik Hariri, son père assassiné en 2005, avait été un puissant premier ministre du Liban avant lui. À la fois, Rafik Hariri est au aussi critiqué hein, par les sunnites aussi, comme faisant partie de cette classe politique ONI qui a fait main basse sur le Liban pendant des décennies sans s'occuper vraiment du sort des Libanais. Donc certains expriment aussi leur satisfaction après ce retrait, le souhait qu'ils soient remplacés par d'autres.
Oui, en tout cas pour une majorité des sunnites, ils ont l'impression aujourd'hui d'être un peu orphelins après le départ de Saad Hariri. Vous avez une autre question, Freddy, une dernière?
Oui, une dernière. Étant donné qu'il est une figure de proue de la communauté sunnite et qu'il a demandé le boycott de son parti, est-ce qu'on peut dire qu'il n'y aura aucune représentation sunnite à ces élections du mois de mai?
Des élections dans 5 mois, effectivement, dans 3 mois, Muriel Paradon.
Oui, le 15 mai. Le courant du futur, c'est vrai, le principal parti représentant la communauté sunnite, mais ce n'est pas le seul. Il y a d'autres hommes politiques sunnites et il n'est pas exclu que certains parlementaires issus de ce courant du futur se présentent aux prochaines législatives en leur propre nom, même si on leur a demandé de ne pas le faire. Donc la communauté sunnite ne sera pas exclue, c'est très important parce qu'au Liban, vous savez qu'il y a une répartition des postes selon les confessions. Le président doit être chrétien, le chef du parlement chiite et le premier ministre sunnite. Alors après, il n'est pas exclu non plus que Saad Hariri revienne sur sa décision de retrait. Vous savez, tout est possible au Liban. On a déjà vu des rebondissements. Et puis, il n'est pas impossible non plus que les élections soient repoussées. Ça arrive aussi.
Scénario possible.
Scénario possible. Donc, il faut surveiller tout ça.
Freddy, a-t-on répondu à vos questions?
Oui, merci, je vous en suis reconnaissant.
Eh bien, bonne journée et merci à vous de nous écouter à Kinshasa, capitale de la RDC. Bonne journée, Muriel Paradon. À bientôt, 9h17 ici à Paris. D'autres questions au standard 33 9 693 693 70. Bonjour Ferré.
Bonjour Juan Gomez.
En Guinée, c'est bien ça?
Bien sûr, je suis à l'Abbé.
À l'Abbé, en Guinée. Merci de nous écouter sur place. Vous avez des questions concernant le sort d'un Français condamné en Iran?
Effectivement, Juan, il s'agit de Benjamin Brière qui a été condamné à 8 ans de prison en Iran pour espionnage, alors qu'il affirme lui qu'il faisait du tourisme. J'aimerais savoir sur quelle preuve s'est appuyé le tribunal pour lui condamner.
Alors, bonne question. Et vous savez quoi? Pour vous répondre, nous avons contacté l'avocat français de Benjamin Brière, Philippe Vallant. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous et de prendre quelques minutes pour répondre à notre auditeur de Guinée. Benjamin Brière, rappelons-le, est détenu depuis 1 an et demi. Il a été condamné pour espionnage et propagande contre la République islamique. Depuis le début de cette affaire, votre client ne cesse de dire « Je ne suis ni un espion, ni une menace pour la sécurité intérieure iranienne. Je ne suis qu'un touriste ».
Tout à fait, Benjamin Brière n'était effectivement qu'un touriste, un jeune homme qui traversait depuis 5 mois l'Iran et qui, au moment où il quitte le territoire iranien, est arrêté et accusé de faits d'espionnage et de propagande. Alors, pour répondre à la question de votre auditeur, sur quelle preuve s'est appuyé le tribunal révolutionnaire pour le condamner? C'est assez difficile à dire puisque l'audience qui s'est tenue jeudi dernier était une audience qui était totalement secrète, non publique, et dont nous n'avons en réalité aucune retranscription aujourd'hui. Il semble, en tout cas, qu'il ait été reproché à Benjamin Brière de s'être déplacé dans une zone soi-disant interdite, mais qui en fait est un parc national, et d'avoir détenu un drone de supermarché entre nous, ce qui constituerait pour les Iraniens les prémices de preuve de son implication dans des faits d'espionnage.
Maître Philippe Vallant, d'avoir détenu un drone, et il a pris des photos avec ce drone.
Et il a pris des photos quotidiennement avec ce drone pendant 5 mois au cours de son voyage, et l'ensemble des photographies qu'il a prises étaient publiées en direct sur son compte Instagram, de telle sorte que qui que ce soit puisse avoir accès à ces images dont chacun constaterait qu'il ne s'agit pas évidemment de lieux sensibles.
Il n'a pas photographié de zone interdite.
Il n'a pas photographié de zone interdite. La zone dont il lui est reproché des photographies, c'est un parc national au nord de l'Iran. Et je veux juste vous dire que j'ai, et là c'est une information privilégiée pour vous, j'ai appris de sources certaines que le procès de Benjamin Brière avait été filmé par les gardiens de la Révolution. Et donc, in fine, on ne peut que les exhorter à présenter les vidéos de ce procès, ce qui démontrera la mascarade qu'il était.
Donc un procès à huis clos qui aurait été filmé, dites-vous?
Tout à fait.
D'accord. Vous restez en ligne, Maître Philippe Vallant, parce que Ferré a une autre question à vous poser.
Quelles sont les démarches initiées par le ministère des Affaires étrangères français pour le faire libérer ?
Ah, il y a eu des réactions, évidemment. Hein. Condamnation inacceptable, c'est ce qu'a dit le ministère français des Affaires étrangères. Vous êtes en contact régulier avec les autorités françaises, Maître Vallon ?
Alors, nous sommes en contact, et la famille, évidemment, régulièrement avec les autorités françaises, qui prennent la mesure de cette folie qu'est la condamnation par le communiqué que vous reprenez. Le Quai d'Orsay aujourd'hui et le gouvernement français prend la mesure de ce que la condamnation de Benjamin Brière est une condamnation politique, et donc je pense, mais nous ne participons pas à ces discussions, eh bien que les pressions nécessaires, diplomatiques et politiques, vont être exercées.
Oui. Certains, c'est ce qu'on lit hein, dans la presse, certains peuvent imaginer la possibilité d'un échange de prisonniers. Vous y croyez, Philippe Vallon ?
Alors ça s'est fait de manière régulière depuis 1978, c'est une tradition dans les relations avec l'Iran. Pour autant, aujourd'hui, je ne peux pas vous l'affirmer, c'est-à-dire que je sais qu'il y a ces rumeurs, je ne participe évidemment pas à ce type de tractation, je les déplore par ailleurs, mais il est vrai qu'avec le gouvernement iranien, nous pouvons tout imaginer.
Bon, Ferré, a-t-on répondu à vos questions ?
Effectivement, Juan Gomez.
On libère donc Philippe Vallon, qui a un agenda très, très chargé ce matin. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes l'avocat français de Benjamin Brière, condamné à 8 ans et 8 mois de prison en Iran. Il est 9h22 à Paris. On repasse au standard. 33 9 693 693 70. On va parler de la Guinée, de la transition, puisqu'on connaît enfin, j'ai envie de dire enfin, les membres du CNT, le Conseil National de Transition, qui doit servir d'organe législatif. Bonjour Abdoul. Alors bon, c'est Ibrahim. Juan. Pardon, je vous ai oui, appelé Abdoul. En fait c'est Ibrahim, mais ça nous a permis d'entendre le coq. Le coq de Conakry. Soyez le bienvenu, nous vous écoutons.
Merci Juan, bonjour à Benoît, votre technicien du jour.
Et on le salue évidemment, sans qui vous ne pourriez pas passer à l'antenne. Hein. C'est lui qui fait les réglages techniques et qui rappelle les auditeurs pour le direct. Allez-y Ibrahim.
Le président de la transition, Mamadi Doumbouya, a désigné Dansa Kourma pour diriger le Conseil national de transition. Pourquoi l'installation du CNT a-t-elle pris autant de temps ? Comment ont été choisis les membres de cet organe ?
Voilà, l'organe qui va donc remplacer l'Assemblée nationale, hein, qui a été dissoute au moment du coup d'État du 5 septembre. Saïkou Oumar Baldé, bonjour.
Bonjour Monsieur Gomez,
vous êtes,
bonjour Ibrahim.
Vous êtes docteur en sciences politiques, directeur du Centre d'études et de recherche et de formation de Guinée. Le CNT est enfin composé, 81 membres. Ils sont issus de la classe politique, de la société civile, des organisations syndicales et patronales, des forces de défense, de la diaspora, des organisations paysannes. Bref, au total, 19 structures sont représentées au sein de cet organe. Et il a fallu du temps quand même pour s'entendre sur ces 81 personnes.
Merci, Monsieur Gomez. Absolument. C'est vrai que la question du retard dans la mise en place du CNT avait suscité beaucoup de débats dans l'opinion nationale. Et d'ailleurs, le ministre de l'administration du territoire, Mori Kondé, avait tenté de rassurer les acteurs de la classe politique guinéenne lors d'une rencontre le 10 janvier dernier en imputant le retard de la mise en place du CNT 4 mois après la prise du pouvoir par le CNRD, par le nombre très élevé de candidatures reçues. Hein. Pour 81 places, le gouvernement avait reçu 706 candidatures, oui. Donc une masse qui n'aurait pas facilité le processus de sélection. Alors le gouvernement a donc travaillé sur un arbitrage pour sélectionner les 81 conseillers, conformément à l'article 60 de la Charte de la Transition, et publié dans un décret, le décret 052 du 22 janvier, la liste du coup des conseillers. Et dans la composition, en réalité, l'article 60 de la Charte n'a pas été respecté par certaines organisations par rapport au quota, par exemple, réservé aux femmes, mais dans la totalité, nous avons bien le pourcentage exigé, environ 68% d'hommes et 32% de femmes. Et il est important de préciser tout de même que la commission d'arbitrage n'a pas rendu public les conclusions sur le processus de sélection et les critères ayant permis de faire cet arbitrage. Ce qui a laissé d'ailleurs, ce qui a poussé certains acteurs politiques ces derniers jours à dénoncer une certaine opacité dans le processus.
Il faut bien que les auditeurs comprennent, hein, Saïkou Oumar Baldé, c'est que ces structures ont proposé des noms et au final, c'est quand même le président de la transition qui a tranché. Qui a choisi, non ?
Absolument. Donc, d'où la mise en place de cette structure d'arbitrage qui avait été pilotée par le ministre de l'administration du territoire, qui a finalement rendu publique la liste. Et justement, ce processus n'a pas été assez transparent pour certains acteurs politiques.
Bien. Est-ce qu'on a répondu à votre question, mon cher Ibrahim ?
Tout à fait, Juan.
Ouais, vous en avez d'autres ?
Oui, j'ai une autre, Juan. Quelle est désormais la feuille de route du CNT ? Peut-on s'attendre à l'élaboration d'un chronogramme de la transition rapidement ?
Ah, rapidement. C'est ce que vous rajoutez dans la question, effectivement, rapidement, parce que tout le monde veut savoir quand auront lieu les élections en Guinée, et donc la fin de la transition. Seykou Omar Baldé, la feuille de route du CNT, quelle est-elle ?
Alors, la feuille de route dans les détails n'a pas été rendue publique, mais nous espérons fortement une installation du CNT dans les prochains jours. Mais si l'on s'en tient au chapitre 4 et aux articles 56 et 57 de la Charte de la Transition, le CNT aura pour mission principale l'élaboration et la soumission pour adoption par référendum le projet de la Constitution, l'élaboration des textes législatifs, le suivi et la mise en œuvre de la feuille de route de la transition, justement, qui précise le calendrier, pas les délais, mais les échéances des élections, comment elles seront organisées, les locales, le référendum, les locales, les législatives et la présidentielle, enfin. Et également la contribution à la défense et la promotion des droits de l'homme, ça va être l'une des compétences du CNT. Et aussi de contribuer à la réconciliation nationale, entre autres. La prochaine étape devrait être une clarification de la feuille de route et la mise en place d'un agenda pour accomplir ces missions qui vont permettre du coup de sortir de ce processus de transition. Mais il n'y a pas actuellement une feuille de route assez précise par rapport au délai et à la durée.
Oui, en tout cas, à vous entendre, les membres du CNT ont du pain sur la planche. Peut-on s'attendre à un chronogramme de la transition rapidement ? Alors, je ne sais pas ce qu'entend notre auditeur par rapidement, mais dans les prochaines semaines, les prochaines semaines, puisqu'il va falloir à un moment donné que la junte réponde aux exigences de l'organisation ouest-africaine, la CDAO.
Absolument, il y a cette pression derrière, mais ce qu'il faut comprendre, d'ailleurs ça avait été précisé dans la charte, que la durée de la transition sera fixée en commun accord avec les organisations de la société civile et autres, y compris le CNT. Donc cela dépendra de la volonté non seulement du CNRD, mais aussi de la capacité du CNT à se mobiliser, à s'organiser pour pouvoir présenter quelque chose de concret dans les délais. Donc je pense que dans les prochaines semaines, on aura une indication par rapport aux activités et au chronogramme.
Ouais, on va voir ce qu'en pensent les auditeurs. Hein. Certains Guinéens nous ont appelés dès l'annonce de la composition du CNT pour s'exprimer. On pensait d'ailleurs faire un débat cette semaine, mais voilà, bon, l'actualité étant ce qu'elle est, on en parlera uniquement dans la libre antenne, mais c'est déjà pas mal. Ibrahim, a-t-on répondu à vos questions ?
Tout à fait, Juan. Merci à M. Seykou Omar et bonne journée à tous.
Seykou Omar Baldé, docteur en sciences politiques, merci à vous également de nous avoir permis de mieux comprendre le fonctionnement de cet organe législatif de la transition guinéenne. Je salue par respect Donald, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Lomé, on vous a fait patienter depuis quelques minutes, malheureusement on ne pourra pas vous prendre dans l'émission ce matin, on arrive déjà à la fin de cette première partie. Êtes-vous libre lundi ?
Oui,
lundi à l'heure de l'émission, eh bien vous savez quoi, on va vous rappeler et vous pourrez poser vos questions. Je prends l'engagement devant tous les auditeurs. Bonne journée donc Donald, hein, et toutes nos excuses et bonne fin de semaine évidemment dans la capitale togolaise. Vous avez pris l'émission en cours, vous souhaitez peut-être la réécouter ou réécouter certaines réponses de nos experts, eh bien n'hésitez pas, rendez-vous sur l'application Pure Radio, vous allez sinon sur le site RFI.fr ou sinon sur la page Facebook de l'émission. Vous avez à tout moment une séance de rattrapage. C'est quand vous voulez et autant de fois que vous voulez, évidemment. 33 9 693 693 70, le standard reste ouvert. On vous attend pour la libre antenne dans 10 minutes.